France Inter, le 18-20.
Je me souviens de M. Windecker, qui nous apprenait la philo. En terminale, dans mes souvenirs, il ressemblait vaguement à André Glucksmann, et les jours de grève, il venait nous expliquer pourquoi on ferait pas de philo aujourd'hui. Je me souviens de M. Colomer, en cours d'espagnol. Grâce à lui, je sais qu'il y a un accent sur le i de i, vamos, pas beaucoup plus, très honnêtement, mais grâce à lui surtout, je peux toujours aujourd'hui réciter du Garcia Lorca en version originale. Comment s'appelait cette prof d'anglais au collège qui forcément doit être à la retraite aujourd'hui, qui nous traduisait Every Breath You Take de The Police à l'époque de l'album Synchronicity. C'était quand même le dernier du groupe et ça faisait beaucoup mieux passer les verbes irréguliers. On a tous ces souvenirs-là, des profs marquants, des vocations nées d'un ou d'une prof, des changements d'orientation, des moments simplement qui étaient privilégiés, qu'on aimait beaucoup. On aime s'en souvenir quand on croise nos plus vieux amis. Et pourtant, derrière la belle image du prof passionnant qui change nos vies, il y a une vraie crise des vocations. Le CAPES ne fait pas le plein, les admissions sont moins nombreuses qu'elles devraient l'être, en tout cas en lettres classiques, en allemand, en maths, en lettres modernes aussi. Mal payé, objectivement, 1400 euros en début de carrière, c'est pas beaucoup. Mal considéré, mal formé, les jeunes lâchés, disent-ils souvent, comme des oisillons en dehors du nid, beaucoup trop tôt et pas accompagnés lors de leur carrière. Comment peut-on être prof? Eh bien, c'est ça notre question du jour. C'est quoi un bon prof? Qu'est-ce qu'il manque pour que les profs, après tout, soient tous bons? Quel bon prof avez-vous croisé? Est-ce qu'elle est réversible? Et comment est-elle réversible, cette crise des vocations? C'est à vous de nous le dire. Et soyez les bienvenus.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Marina, bonsoir. C'est vous qui ouvrez le bal ce soir. Et soyez la bienvenue.
Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous.
Et on vous écoute, Marina.
Donc moi, je suis enseignante en lycée, en physique-chimie, et je voulais vous dire la joie que j'ai d'enseigner, en fait. C'est un métier que j'ai choisi, c'est un métier que je considère parfois comme difficile. Je vis avec au lycée, chez moi, le soir, le week-end, la nuit, parfois même, et en même temps, je l'aime, ce métier.
Et pourquoi vous l'aimez? Alors, Marina, qu'est-ce qui vous fait lever le matin?
Ce qui me fait lever le matin, c'est le contact que j'ai avec mes élèves, en fait. Cette osmose qu'il y a entre eux et moi qui fait qu'un cours devient magique. Et c'est grâce à eux, finalement.
Et même en étant prof de physique-chimie, c'est pas gagné d'avance.
Et oui, parce qu'on les fait découvrir, on les fait aimer cette matière, on les fait manipuler finalement, et en fait tous nos élèves sont curieux, et en fait il suffit juste d'attiser cette curiosité.
Marina, juste une dernière chose, parce qu'il y a beaucoup de questions dans ce sens-là, on y reviendra forcément. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, cependant, que vous le portez, votre métier, mais qu'il est de plus en plus mal considéré, mal amené? Après tout, j'imagine que vous entendez comme tout le monde, hein, mais de toute façon, t'as trop de vacances, de toute façon, vous faites pas grand-chose, etc. Vous l'entendez, ça aussi, j'imagine, non?
Et je l'entends, et je montre, quand on en discute avec la famille, avec des amis, que ce métier, je le vis pleinement, et que le week-end, je travaille, et que parfois, j'aimerais un métier où je rentre à la maison tranquillement, sans avoir de travail et sans penser à mon travail. Et les gens comprennent finalement l'investissement qu'il y a derrière. Parce que quand on en parle, on sent la passion, j'espère en tout cas.
Merci beaucoup Marina, c'est pour cette entrée en matière parfaite pour discuter avec nous jusqu'à 20h autour de la table du téléphone sonne. Anne Anglès, là, bonsoir.
Anne Anglès.
Anne Anglès, autant pour moi. Pouf, attendez, bougez pas, je vais vous rajouter un accent. C'est comme sur synthèse en fait. Normalement, il n'y en a pas, mais il vaut mieux en mettre un. Professeur d'histoire dans un lycée de Créteil, c'est pourtant vous, on devrait le savoir, qui avait inspiré le fameux film Les Héritiers avec Ariane Ascaride. Bonsoir Éric Charbonnier.
Bonsoir.
Charbonnier, là, c'est bon.
C'est parfait.
Bah, très bien, vous êtes analyste à la direction de l'éducation de l'OCDE. Elle a bien résumé les choses. Anne Anglès, Marina, finalement, à la fois beaucoup de plaisir et aussi tordre le cou à certaines idées reçues régulièrement, y compris auprès de la famille et des amis.
C'est un peu le quotidien, effectivement. C'est la différence entre la réalité vécue et puis ce qui est projeté de l'extérieur. De l'extérieur, on a soit l'image de l'enseignant sous Prozac, soit un des profs des films, celui qui roupille ou celui qui joue de son charme ou celle qui joue de son charme. Et puis, de l'autre côté, on a les Louis Germain qui, comme l'instituteur donc d'Albert Camus, eh bien, 50 ans après, 40 ans après, un petit peu moins pour Albert Camus, continue de rayonner. Effectivement, ce métier, ça a été calculé, hein, c'est entre 60 et 70 heures de travail par semaine. Donc, les jeunes gens ou la famille en général voient ce qui est affiché, c'est-à-dire 15, 18 heures, 20 heures pour les professeurs d'EPS, un petit peu plus d'ailleurs, voire davantage encore pour les collègues de section professionnelle. Et en fait, c'est un métier extrêmement astreignant. C'est une forme d'assaise. Ça demande beaucoup de temps pour se former, pour penser, pour réfléchir. Et c'est vrai que parfois, on en manque un peu. Mais au cœur de ça, il y a aussi les élèves. Et nos élèves, ce sont nos héros un petit peu.
Surtout,
ils sont merveilleux.
Est-ce que vous vous souvenez, en anglaise, des élèves autant que nous, on se souvient des profs, finalement? Est-ce que 20 ans après, vous êtes encore capable de parler de deux d'entre eux, de trois d'entre eux, j'en sais rien?
Alors, il y a... Oui, d'abord, je suis toujours en contact avec certains, et puis hélas, d'autres ont disparu. En fait, je suis dans un lycée, au lycée Lomblum, où il y a une ULIS, c'est-à-dire une unité d'intégration d'enfants malades. Je pense particulièrement à Dimitri, par exemple, que j'ai eu de la seconde à la terminale, qui est un élève qui est rentré en fauteuil roulant et qui écrivait, et qui, en terminale, n'écrivait plus, et puis qui a disparu après, et qui était rayonnant, et qui nous a apporté, qui a eu son bac avec mention très bien, qui était un élève formidable, alors je pense à lui. Et puis j'aurais tendance aussi à penser à un autre élève, peut-être Pablo par exemple, qui a découvert Bergman en seconde, qui était un peu le prototype, j'ai envie de dire, qui se la jouait peut-être qu'encre. Et puis qui est un élève qui n'a pas suivi forcément des chemins balisés et qui a réussi très bien et qui va bien dans sa vie d'adulte. Voilà deux exemples, c'est des garçons, ça pourrait être des filles.
Éric Charbonnier, qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes étudiants aujourd'hui, enfin jeunes étudiants, un peu de vieux étudiants, aux étudiants aujourd'hui qui hésitent à embrasser la profession d'enseignant parce qu'ils entendent tout ce qu'on peut entendre, à la fois ce que vient de dire Anne Anglès, mais aussi tout le côté négatif, c'est-à-dire effectivement mal considéré, souvent mal accompagné, parfois un peu seul, et puis mal payé, disons les choses clairement, c'est pas bien payé, prof.
Oui, il y a indéniablement des difficultés dans le métier d'enseignant, mais encore une fois, le discours qu'on a pu entendre, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans les statistiques. Vous avez 7 enseignants sur 10 au collège qui aiment leur métier, 6 sur 10 qui recommenceraient à faire le même choix si on leur laissait la possibilité d'être enseignant ou choisir un autre métier. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a tendance à dépeindre de façon négative le métier d'enseignant. Alors ce qui est clair, c'est que les enseignants se sentent insuffisamment valorisés par la société. C'est un véritable problème que quand on est jeune enseignant, on a des défis supplémentaires parce que souvent on est affecté en France dans des établissements difficiles. On n'a pas été suffisamment formé sur la pédagogie et il n'y a pas forcément dans tous les établissements une culture de coopération entre tous les acteurs. Mais vous avez dans beaucoup d'établissements de l'innovation, ça fonctionne bien, et puis une entente entre les enseignants. Donc je crois qu'il faut continuer à mieux former nos enseignants, à mieux les équiper à ce qui les attend dans les établissements, et c'est la clé de la réussite.
Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que l'image se dégrade quand même? Il a bien dû se passer quelque chose pour que l'image du prof qui était vénéré, alors on ne va pas revenir à l'Institut de Camus, mais enfin du côté un peu comme ça, vénéré du prof, pour qu'on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus basique. Enfin, on se fait aussi engueuler par des parents quand on est prof, parfois. C'est des choses qui n'arrivaient pas avant.
Alors, je n'en suis pas certaine. Et puis, j'ai envie de dire que Erasme, hein, au XVIe siècle, l'éloge de la folie, il se moquait déjà de la bêtise des maîtres. Et Juvénal, bien avant, d'accord, dans l'Empire romain, 1er, 2e siècle, déplorait également la stupidité des élèves, éventuellement la stupidité de leurs maîtres et le fait que les parents n'étaient pas coopérants. J'ai envie de dire que c'est assez relatif, mais je pense qu'actuellement, on est dans une forme de catastrophisme social. Hein. L'école n'y échappe pas. La mode est au déclinisme. Et puis, vous avez des gens qui ont fait profession depuis quand même plus de 20 ans d'expliquer que ça allait bien mieux avant. Quand on regarde les statistiques, un tiers seulement des enfants d'une classe d'âge qui pouvaient passer le certificat d'études en 1938 le passaient. Donc, on ne peut pas dire que c'était mieux avant. On peut pas dire que c'était plus égalitaire avant. Je dirais même que ça va... Mais j'empiète peut-être sur le terrain de Monsieur Charbonnier, dont je l'ai dit. Enchaîner.
On va refaire un aller-retour au standard, Monsieur Charbonnier. Vous reviendrez, y compris avec vos statistiques. Bonsoir Jean-Christophe.
Oui, bonsoir.
Et on vous écoute, Jean-Christophe, allez-y.
D'accord. Alors écoutez, moi c'est pour donner un avis, un témoignage. Je suis enseignant depuis 8 ans. C'est ma deuxième partie de carrière, c'est-à-dire que j'ai fait d'autres métiers avant et je suis entouré parmi mes amis, aussi bien d'enseignants que de personnes qui font d'autres métiers. Et je voulais simplement dire que c'était un métier difficile, en particulier pour capter l'attention des étudiants et des élèves, parce que vous avez 35 personnes à convaincre et à distraire de leur téléphone portable, qui est un élément qui n'existait pas il y a 15 ou 20 ans. Et ça, croyez-moi que ça vous demande une énergie assez forte. Maintenant, Ce que je voulais dire, c'est que je fais un gros reproche, moi, à cette profession, à ma profession, c'est qu'elle est très solidaire pour s'opposer aux grandes réformes ministérielles pour remplir les rues. Par contre, au niveau de l'évaluation individuelle, ça fait très peur. Ça fait très peur. Je vais vous raconter une anecdote, ce sera court.
Allez-y.
J'ai fait mon année de stage dans un lycée du centre de la France, un bon lycée de centre-ville que je ne nommerai pas. Et il y a eu une conférence un soir pour les parents d'élèves et les enseignants sur une méthode au Canada qui consiste à former les enseignants au cours de leur vie avec quelques modules parfois très ponctuels. Et l'intervenante est venue et a montré qu'en quelques heures, parfois 2-3 heures, 4-5 heures, on pouvait réasseoir un professeur en termes d'autorité face à sa classe et permettre à celui-ci de gagner en bien-être. Et il y a un parent d'élève qui a dit, là, bah, écoutez, est-ce qu'on pourrait mettre une affiche dans la salle des profs qui aiguille vers ce genre de formation? Et le principal a dit tout de suite, c'est absolument hors de question. Est-ce que vous voulez que j'aie une grève générale demain? Je refuse. Un, qu'on en parle. Deux, qu'il y ait une affiche. C'est totalement inenvisageable que mon lycée soit bloqué par la prochaine grève, que ça ne manquerait pas de déclencher. Voilà. Et j'en suis resté assez pantois, moi. Voilà, c'était mon année de stage et je me suis dit qu'il y avait vraiment du boulot.
Mais vous êtes resté, Jean-Christophe, vous êtes un garçon persistant.
Ouais, je suis resté, mais j'ai un peu de poigne, j'ai un peu, voilà, et c'est malheureusement pas le cas. J'ai aussi mes défauts, hein, mais quelqu'un qui a des défauts, il va se les traîner jusqu'à la retraite. Et tous les jours, les étudiants et les enfants le lui feront payer. Ses collègues le connaîtront, ses collègues se moqueront de lui, on le saura. Et il sera très seul. Voilà.
Merci pour ce témoignage, Jean-Christophe. Éric Charbonnier, au-delà de l'exemple et peut-être du côté très, peut-être un peu exagéré de ce proviseur qui a répondu à Jean-Christophe, mais qu'importe, la difficulté de la remise en cause, ça fait partie des, on va dire, du côté négatif des enseignants, c'est compliqué,
L'évaluation, de toute façon, c'est un sujet tabou en France, c'est un sujet qu'on a du mal à aborder quand on voit la situation. Les enseignants étaient évalués une fois tous les 5 ans, maintenant il va y avoir des points de carrière en début de carrière après 7 ans et 15 ans. Dans de nombreux pays qui réussissent bien, il y a des évaluations annuelles. Ça peut être des évaluations informelles, une simple discussion avec le chef d'établissement, avec les collègues, des décisions justement sur la formation continue. Je vous prends l'exemple de Singapour qui fonctionne très bien. Tous les enseignants sont évalués.
Le Graal de Singapour.
Mais c'est tellement...
Le Graal ou la mode d'ailleurs peut-être, non?
Oui, le Graal sur la formation des enseignants et sur justement le bien-être qu'on leur donne. Tous les enseignants sont évalués et ont accès à un plan de formation continue personnalisé sur leurs faiblesses, sur leurs forces, avec du travail coopératif entre les enseignants. Je crois que c'est ça aussi qui manque aujourd'hui à notre système, où finalement, une fois qu'on est en exercice, on n'a plus accès à cette formation continue de qualité, ou quand on a accès, elle est très limitée en termes de nombre d'heures.
En anglais, c'est ce que évaluer, c'est sanctionner dans l'esprit des gens. Et ça marche pas que pour les profs, hein. Effectivement, il a raison, Éric Charbonnier, c'est aussi quelque chose qu'on a du mal à intégrer, nous, en France.
Alors, je pense que pour les enseignants, le système d'évaluation, en tout cas, il est infantilisant. C'est vrai que l'inspecteur, une visite de l'inspection, c'est annoncé comme une catastrophe, alors que les inspecteurs viennent essentiellement pour donner des conseils.
Et puis finalement, on fait pas cours comme on fait cours habituellement quand l'inspecteur est dans la salle, non?
En fait, ça dépend des enseignants, j'ai envie de dire. Mais enfin, il y a des cultures d'établissement différentes. C'est vrai que ouvrir la porte de sa classe déjà, accepter de faire rentrer des gens dans sa classe avec l'autorisation du chef d'établissement, c'est déjà se confronter au regard de l'autre. Et je crois que c'est essentiel. Il y a une forme de solitude qui est intégrée dans notre métier et qui nous empêche d'avancer, alors que l'expérience prouve effectivement que dès lors qu'on travaille en équipe, ça se passe beaucoup mieux. Et effectivement, alors la formation, il y en a, mais c'est 3 jours par an. C'est par dans notre jargon, il y a un acronyme, c'est le PAF. Donc c'est le plan académique de formation. Dans le meilleur des cas, on parvient à avoir des formations éventuellement d'équipe, associée, d'établissement. Ça va peut-être durer 5 jours, mais bien évidemment. Et puis c'est parfois, surtout sur notre temps libre, des universités d'été, des universités d'automne, c'est-à-dire sur le temps des vacances. Et là, quand même, il y a beaucoup d'enseignants qui se forment. Et j'ai envie de dire que les enseignants, par ailleurs, hors des institutions, ils se forment, j'ai envie de dire, en permanence. Dès lors qu'on leur en laisse le temps, et c'est vrai qu'il y a peut-être un peu moins de temps disponible actuellement parce qu'il y a des injonctions multiples, ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui se forment, qui sont obligés d'ailleurs d'évoluer.
Qu'est-ce qui serait plus intelligent, effectivement, que l'inspecteur qui arrive dans la salle pour ce qui est des évaluations dans votre salle de cours, qui vient une fois tous les combien d'ailleurs?
Moi, je n'ai pas été inspectée depuis 2005.
Voilà.
En moyenne, c'est une fois tous les 5 ans.
Voilà.
Et je crois que cette idée de solitude de l'enseignant est très importante. On voit que la France est le pays où justement les enseignants vont le moins observer ce qui se passe de la classe, de leur voisin ou le chef d'établissement.
C'est ce que j'ai dit, parce que vous confrontez votre manière d'enseigner avec qui ? Si ce n'est avec votre collègue,
voilà,
en fait.
En revanche, si vous voulez, c'est vrai que nous, on va, notamment parce qu'on a mis en place des enseignements un peu innovants, on est allé suivre les cours les uns des autres. Moi, j'ai des stagiaires périodiquement. Donc il s'agit de, bien évidemment, ils viennent dans ma classe et je vais dans la leur. Donc là, il y a un échange permanent. En fait, quand même, il faut le dire, c'est un métier, c'est pas un sacerdoce. On n'entend pas des voix et on se dit pas, je vais devenir professeur. Non, mais il n'y a pas d'appel de métaphysique. C'est un vrai métier. On se forme. Il y a des techniques. Il y a une science.
Dire, on n'est pas
de
prof naturellement, c'est ça l'idée.
Mais non. Et je connais peu de gens qui se sont levés. Et je dirais, c'est les pires. Ceux qui commencent en disant « Ah, mais depuis que je suis tout petit, je veux devenir enseignant », au secours, certainement pas. Alors moi, j'ai été également dans des jurys de concours. C'est vrai qu'on voit des enseignants qui vous expliquent que depuis qu'ils sont nés, ils avaient envie de devenir prof. Mais ce sont souvent des gens qui ont une représentation du réel qui est complètement décalée. La vraie difficulté, c'est de s'adapter à son public, effectivement. Et quand on vient du 7e arrondissement et qu'on se retrouve à Arras, quand on se retrouve devant des jeunes, et des jeunes qui évoluent, parce que les élèves que j'avais il y a 25 ans ne sont pas les élèves d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'ils ont moins ou plus de compétences, ils en ont d'autres.
Et en termes de comportement, par exemple, face à vous, est-ce qu'ils sont très différents ou pas ? Ou est-ce que finalement, une fois que vous arrivez à vous parler les uns les autres et que la classe est tenue, il y a 25 ans aujourd'hui, c'est finalement la même chose.
Je pense que je fais le...
Vous enseignez de la même manière.
Voilà, c'est-à-dire qu'il faut emporter effectivement l'adhésion, et c'est la difficulté au départ, et ça se fait souvent par deux choses, je pense. La rigueur scientifique et puis la bienveillance. Je crois que les deux sont... et la cohérence aussi, c'est-à-dire dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. À partir de là, on a une sorte de contrat, si on annonce les choses clairement avec les élèves, ça marche. Maintenant, effectivement, les élèves ont changé. J'ai envie de vous dire en termes de rapport
changé.
Et les classes ont changé.
Elles sont beaucoup plus hétérogènes qu'il y a 40 ans. Aujourd'hui, le baccalauréat est devenu la norme.
Il y a 40 ans, j'ai pas de recul.
Vous avez 43% des jeunes qui rentrent à l'enseignement supérieur. Je crois qu'on n'est plus non plus, ça n'est plus le même métier. Et la pédagogie, on a des classes avec des niveaux tellement différents qu'il faut que les enseignants puissent s'adapter aussi à ces classes. Et d'ailleurs, ils le demandent eux-mêmes d'avoir accès à plus de formation sur la pédagogie différenciée pour être capable.
Mais je pense que c'est ce qui fait aussi la richesse d'aujourd'hui, c'est que finalement, qu'est-ce que faisaient autrefois mes enseignants ? Ils me faisaient un manuel bis, c'est-à-dire j'avais le livre et puis on passait une heure à écrire un résumé de ce qu'il y avait déjà dans le manuel. Quel est l'intérêt ? Pour la démarche intellectuelle, c'est pas ce qui a contribué à ma formation. J'ai envie de dire que là, il faut déployer effectivement des stratégies pour apprendre indépendamment de nos matières et avec nos matières j'ai envie de dire accéder à une pensée autonome. Ça, c'est formidable.
Et pour aller dans le sens que vous disiez, où on n'est pas enseignant, mais on le devient, tiens, voici cette jeune femme qui est prof depuis 29 ans. Je n'ai jamais eu la vocation, dit-elle, étudiante, j'avais simplement besoin de travailler pour vivre. L'absence de vocation n'empêche pas d'être un prof compétent et intéressant, je l'espère, en tout cas. Mais aujourd'hui, c'est la suite de la question, comment attirer des étudiants après 5 ans d'études pour 1300 euros. Et effectivement, sur les salaires en début de carrière, Éric Charbonnier, bien sûr, c'est une vraie question.
Bien sûr.
1300, 1400 euros en début de carrière. Bac plus 5 à minima,
un enseignant en Allemagne gagne le double en début de carrière. En France, on a choisi de valoriser les enseignants en termes de salaire en fin de carrière, alors que les enseignants en fin de carrière veulent plutôt une reconversion, des décharges horaires, la possibilité d'aller former les futurs enseignants à l'université. Je crois que le salaire est vraiment une question importante.
Et bonsoir Samir. Samir, est-ce que vous êtes là ?
Oui.
Eh bien, on vous écoute Samir, soyez le bienvenu.
Merci, merci à vous. Je voulais juste témoigner de deux petites choses, mais du coup, en écoutant vos intervenants, j'ai une autre chose à rajouter.
D'accord.
La première chose que je voulais dire, c'était tout simplement que moi, je suis arrivé à l'âge de 4 ans et demi en France, je venais d'Algérie, et j'ai eu un instituteur au CP, Monsieur U. Je me souviens encore de, et je suis un peu ému en parlant parce que c'est juste un instit extraordinaire.
J'espère qu'il nous écoute, Monsieur U.
J'espère aussi parce que j'ai quand même 48 ans. j'espère. Et ça a été juste un accompagnement extraordinaire. Et ensuite, par-delà, de ma scolarité. J'ai été donc moi scolarisé au collège lycée Henri Bergson dans le 19e, qui a mauvaise presse, et qui a été donc c'est dans les années entre 85 et 90. Simplement avec des professeurs, je me rappelle de monsieur Herry, prof de français, d'un prof de maths, d'histoire, enfin, qui ont été simplement extraordinaires. C'est-à-dire que c'est simplement des gens qui m'ont permis de voir qu'il pouvait y avoir autre chose que la réalité où je vivais. Mmh. Alors, je voudrais juste revenir, voilà, après cet éloge, sur l'évaluation. Et là, bah, du coup, là, moi, j'habite en Guyane, encore, et j'habite juste en Guyane, et je voulais juste vous dire que ma compagne, enfin, voilà, elle est dans le secteur, et que par exemple, on dit que beaucoup d'enfants, 60 à 70% d'enfants, sont d'un QI avoisinant les 70-80. Je voudrais juste rappeler que si nous, on nous faisait passer les tests de QI en néerlandais, ben, on serait pareil, à 60, 70, voire 50. Et qu'à un moment, les différences culturelles, là j'entendais un peu parler vos collègues, qu'il fallait quand même prendre en compte ça, des enfants qui sont de culture, tout simplement, et de langue en néerlandaise, et ben ils ont énormément de difficultés. Et j'en profite simplement pour dire
très rapidement, Samir, si vous voulez bien, parce que c'est bien qu'on ait d'autres auditeurs aussi dans le téléphone.
Voilà. Et juste que en Guyane et dans l'Ouest guyanais en particulier, ça serait bien aussi de tenir compte de cette différence culturelle pour pouvoir adapter et proposer une autre éducation.
Merci
pour la réussite.
Beaucoup, bien sûr. Merci beaucoup, Samir. Il n'y a pas qu'en Guyane d'ailleurs. En anglais, non?
Oui, mais enfin, Guyane, c'est vrai que j'avais été amenée à travailler sur des dossiers de candidats au CAPES, justement, et de voir que bah, des élèves, effectivement, c'est bien que des candidats nous le rappellent, hein, viennent en pirogue en classe, que du coup, ça pose la question du matériel scolaire, hein, comment, quand il y a des pluies diluviennes, apporter des manuels scolaires en état, conserver des cahiers. C'est des choses de base hein, qui ne sont pas prises en compte. Et c'est vrai que pour nos élèves, moi, enfin, en tout cas dans mon quartier, dans ma banlieue, il y a la question du vocabulaire. Et il n'y a pas. Alors, ce que j'essaye surtout, enfin, je crois que ce qui est essentiel, c'est de dire qu'on est là pour apprendre et qu'effectivement, un texte, eh bien, le français, ça peut être une langue étrangère, il n'y a pas à en avoir honte. On donne le sens des mots et il faut le faire. Sans état d'âme, c'est aussi notre rôle.
Il parlait des QI, Samir, à l'instant dans sa question. On évalue vraiment les QI? On passe vraiment par là dans certains établissements ou pas?
J'espère que non.
Bon, pas à ma connaissance. Après, ben, c'est vrai qu'en France, on est très axé sur les fondamentaux. C'est vrai que la lecture, le calcul, et c'est important. Mais je crois que c'est ce qui est intéressant dans l'expérience de nos voisins, c'est qu'on va vers aussi développer le bien-être de l'enfant, la créativité, la curiosité, l'empathie. Ce sont aussi des choses qui sont très importante, et malheureusement on est tellement focalisé en France, il faut être meilleur en maths, il faut maîtriser davantage de mots vocabulaire, il faut suivre un programme pour les enseignants, le finir dans les temps, le programme est une véritable prison pour les enseignants, il y a énormément de choses à faire en une année, et on en oublie tout ce côté, le bien-être, on voit bien, c'est particulièrement vrai sur les mathématiques, où les élèves sont super anxieux.
Mais Anne Anglès, qui vous pousse derrière le programme, effectivement? Est-ce que c'est les parents aussi qui disent, mais comment, attendez, le programme il disait ça, comment ça se fait que mon fils a pas appris ça? Qui est-ce qui vous pousse alors, si vous n'avez pas été évalué depuis 2005, vous devez pouvoir passer à côté.
Je vais vous parler tout à fait simplement. Ben, demain, c'est l'épreuve d'histoire-géographie au baccalauréat. Ouais. J'ai deux classes de terminale. Ce qui me pousse à finir le programme, c'est tout simplement la difficulté des épreuves et des programmes qui sont beaucoup plus complexes dans les sections, en tout cas dans les filières générales, qu'ils ne l'étaient quand moi j'étais élève. Je trouve que mes élèves de terminale ont énormément de mérite. J'aurais bien été incapable de raisonner sur le socialisme et le syndicalisme en Allemagne depuis le congrès de Gotha, dont j'ignorais tout avant de l'enseigner, par exemple, ou simplement même de faire une dissertation.
Moi aussi,
une dissertation cohérente sur le Moyen-Orient, foyer de conflit. Je pense que vos journaux en attestent. C'est suffisamment compliqué pour, depuis 1918 ou depuis 1945. Donc, nos élèves ont des programmes extrêmement difficiles et on a cette échéance de l'examen. Et puis, bien évidemment, il y a l'institution. C'est-à-dire, il faut finir les programmes parce que les inspecteurs l'exigent. Et ce n'est pas parce parce que je n'ai pas été inspectée, que je ne suis pas en contact avec des inspecteurs.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a, dans les classes de terminale, je comprends ce que vous dites, effectivement, parce qu'il y a le coup près de l'épreuve. Voilà, il y a le coup près de l'épreuve derrière, il faut avoir fini. Maintenant, quand on est plus près, quand on est au collège, etc., est-ce qu'on peut s'affranchir quand même au profit d'autre chose à l'intérieur des classes?
J'ai envie de dire qu'on y trouve quand même une liberté, c'est-à-dire qu'on a officiellement des volumes horaires. Maintenant, je vous cache pas qu'en seconde, ou au collège d'ailleurs, quand il n'y a pas le coup près de l'examen, si on choisit d'accorder un petit peu plus de temps aux mondes arctiques et pas à nourrir les hommes ou l'inverse, c'est pas forcément grave. Mm-hmm. Et je ne crois pas que ça soit mal vu de l'institution, par ailleurs.
Bonsoir, Anthony.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute, Anthony.
Donc, au fait, par rapport à tout ce qui a été dit, je voulais juste préciser que l'école accueille donc la République et aujourd'hui, la République est en crise. Donc, l'école subit aussi cette crise. Donc, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, pour les enseignants, la situation n'est pas facile. En tout cas, surtout les personnes qui veulent enseigner, parce que ces derniers temps, il y a une précarisation. En fait, des personnes restent vacataires, donc des situations inconfortables qui ne permettent pas d'avoir une projection dans leur vie professionnelle. Donc, moi, je pense que ça, c'est un des problèmes. On a aussi abordé tout à l'heure des problèmes d'évaluation, effectivement. Mmh. Je pense que il doit être pris en compte en évaluation en dehors de l'inspection. Peut-être c'est en complément, mais pas que. Les avis, par exemple, donc des élèves, hein, par rapport à leur progression, il y a comme nous sommes notés, je pense que c'est des critères objectifs qui permettent normalement par rapport à, par exemple, la réussite aux examens ou la moyenne, donc dans un cycle. Et puis aussi, pourquoi pas, l'avis des parents. Ça, je pense que toutes ces pistes-là, j'ai jamais entendu, au fait, aborder dans tous les problèmes à chaque fois qu'on parle de l'éducation nationale. Et puis enfin, il y a une proposition.
Bon, rapidement, Anthony, s'il vous plaît.
Oui, oui. Donc, je voulais dire en même temps que c'est aussi possible d'accueillir les personnes qui viennent de la, entre guillemets, donc des entreprises, parce qu'ils ont des expériences, au fait, qui peuvent être effectivement être utiles. Bon, effectivement, c'est ça, ces allers-retours n'est pas du tout possible avec l'organisation actuelle. Voilà.
Et merci beaucoup, Anthony. On va entendre Laurent dans un instant, parce qu'il est un peu sur le même thème, mais je vous voyais réagir en anglais à certaines des propositions d'Anthony.
Alors, il y avait plusieurs choses. Collègue. D'abord, la réalité, c'est vrai qu'on est un monde, l'éducation nationale est extrêmement cloisonnée, segmentée entre les professeurs qui sont titulaires et les vacataires ou contractuels. Il y a déjà une forme de précarité très grande pour les contractuels et les vacataires. On est sur un système, en fait, où on est titularisé quand on réussit un concours. Mmh. Encore faut-il le réussir ou avoir le droit de le passer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai qu'il y a dessus, il y a toute une, c'est cloisonné également en fonction du concours qui est passé. Hein. Donc, il y a même parfois des établissements, de vieux établissements où on a des salles de professeurs différentes pour les agréger et pour les autres.
Oula.
Oui, oui, ça existe encore. Hein. C'est pas le cas de ce que je connais, mais je sais que ça existe encore. Maintenant, se faire évaluer les réussites d'un établissement en fonction, j'ai envie de dire, de la réussite des élèves. Bon, ben, effectivement, si on est dans le 7e arrondissement et que les élèves prennent des cours particuliers, vont à des écoles bis, terre, 4, et vont à l'étranger et ont 18 en langues étrangères, etc. Il y a une injustice de fait. Donc, alors après, il y a tout un système de correcteurs.
Et c'est comme ça qu'on crée des écoles ghetto d'un côté, etc.
Exactement. Donc ça me paraît un petit peu dangereux.
Vous vouliez ajouter quelque chose, Éric Charbonnier, notamment sur, je vous ai vu réagir sur les contractuels et vacataires.
Oui, oui, je crois, c'est vrai qu'il y a une crise de vocation, mais ce qu'il faut dire, il n'y a pas qu'en France. Dans beaucoup de pays européens, il y a la véritable problème de l'attractivité, parce que les diplômés universitaires scientifiques préfèrent aller vers le secteur privé que de devenir enseignant. Mais on a vraiment une crise aussi qui est le résultat d'un sous-investissement dans les premiers niveaux d'éducation, parce que être enseignant au premier degré et au second degré, c'est quasiment deux métiers différents. Oui. Et la France a sous-investi dans ses écoles maternelles, aux primaires, pendant des années, et elle en subit le coût aujourd'hui. Et je crois que quand on voit qu'en France, en école maternelle, on a presque 30 élèves par classe dans certaines écoles, alors que la moyenne des pays de l'OCDE est 14, on comprend que combien c'est difficile d'être enseignant aujourd'hui.
Laurent, bonsoir.
Bonsoir.
Et on vous écoute, Laurent.
Eh bien, j'avais deux remarques à faire. La première, c'est sur la crise de la vocation. C'est relativement simple. Lorsqu'on est lauréat d'un concours, l'année du stage, on reste dans sa région d'origine. Et l'année d'après, on fait un grand bond. Et si on a beaucoup de chance, si on se retrouve à moins de 500 km de son domicile. Donc si on a une vie de famille ou quoi que ce soit qui y ressemble, on peut faire, excusez-moi de l'expression, une croix dessus. La deuxième chose pour la crise de la vocation, il me souvient qu'en 1994, le salaire d'un enseignant débutant était de 8000 francs. Si on le remet en euros, ça fait 1200 euros. Et comme il a été dit tout à l'heure par un de vos intervenants, le salaire d'un jeune enseignant est de 1350 euros alors qu'il est. Ça fait 150 euros d'augmentation en 24 ans.
Ce qui n'est pas beaucoup.
Ce qui est très ridicule si l'on s'en tient simplement au prix du pain, du gasoil, du gasoil ou de l'essence, ou tout un tas d'autres choses. Voilà. Et peut-être que le travail, le métier, avec son salaire actuel, n'est pas très attractif, et avec ses conditions d'exercice, en l'occurrence le lieu d'exercice, là encore, n'apparaît pas comme attractif.
Cette remarque, Laurent.
Mais si vous avez commencé à 8000 francs par, faudra me donner la recette. Moi, j'ai commencé beaucoup plus bas que ça, me semble-t-il. Je crois que j'étais à 3000 francs, mon premier salaire. Mais bon.
On va pas dire que c'était il y a longtemps, parce que ce serait extrêmement impoli. Donc, on va passer sur cette remarque, pardon. Il a raison sur un point, oui. Laurent. On passe le concours. Effectivement, la première année, on est chez soi, puis ensuite, on est affecté.
Alors, c'est Créteil, Sedan.
C'est ça.
Voilà.
On va dire. Est-ce qu'il faudrait changer ça? Disons les choses clairement. Est-ce qu'il faut changer ça? Est-ce qu'il faut permettre à chaque enseignant d'enseigner dans sa région, en gros, s'il le souhaite?
Il faut changer quelque chose et il faut faire que la première affectation soit pas systématiquement dans les établissements les plus difficiles. Aujourd'hui, ça veut pas dire que quand on est jeune enseignant, on n'est pas déjà bien préparé, mais quand on se retrouve tous les jeunes enseignants dans les établissements les plus difficiles, avec des chefs d'établissement qui manquent d'autonomie et qui partent, pour certains au plus vite, pour aller travailler dans des établissements favorisés, on se retrouve là dans une véritable situation où on a raté la politique d'éducation prioritaire en France, où on doit investir davantage dans ces établissements défavorisés, en y mettant des enseignants expérimentés, en ayant des primes conséquentes. Quand on parle aujourd'hui de la prime...
Et des enseignants qui ont envie, surtout, j'imagine, non?
Moi, je vois des jeunes là qui sont TZR, donc titulaires en zone de remplacement depuis 8 ans, 10 ans, et qui n'arrivent pas à obtenir un poste et qui repartent en pleurant en fin d'année. Alors, ils demandent le poste et puis quelqu'un leur passe dessus, leur passe avant, alors que franchement, ils demandent des postes dans des lycées en zone prioritaire. Ils sont expérimentés. Ils ont été au charbon. Ils se sont battus. Ils se sont forgés une expérience professionnelle et ils n'arrivent pas à se faire stabiliser. Alors même que pour certains, ils étaient contre leur gré dans l'Académie de Créteil ou dans l'Académie de Reims ou ailleurs. C'est extrêmement compliqué pour un jeune enseignant de se fixer. Et ça, c'est vrai que ça ne crée pas des conditions confortables de travail. Comment apporter de la bienveillance et du rayonnement à des jeunes? Comment leur donner confiance quand soi-même, on est dans une précarité familiale et de logement?
Éric Charbonnier, moi j'ai l'impression qu'on entend ça depuis des années. Parce que le système fonctionne comme ça depuis des années, depuis toujours d'ailleurs, je pense qu'on peut le dire comme ça, mais ce que ça génère, là où ça crée des problèmes, y compris effectivement sur les zones d'éducation prioritaire où il n'y a finalement que des jeunes profs qui ne sont pas assez expérimentés, on a l'impression d'entendre ça depuis tout le temps.
Oui, on entend ça depuis tout le temps, mais là on a un discours qui dit qu'il y a des jeunes enseignants, des enseignants plus expérimentés qui veulent y aller dans ces zones. Et malheureusement, le concours, même tel qu'il est organisé, ne détecte pas cette motivation, cette vocation. Si vous prenez les enseignants en Finlande, ils vont tous avoir un entretien de motivation dès le début de l'université. On va détecter ceux qui auront le plus envie d'aller travailler avec des publics défavorisés. Je crois qu'il faudrait vraiment faire évoluer la sélection des enseignants aussi.
Bonsoir Evelyne. Evelyne, est-ce que vous êtes là ?
Je suis là.
Eh bien, écoutez, tant mieux, parce qu'on parlait d'inspection tout à l'heure, ça tombe bien, vous êtes inspectrice, on vous écoute, Evelyne.
Moi, je pense que le métier d'enseignant est vraiment un métier difficile. Et dans mon métier, il m'a fallu franchement accompagner les enseignants de manière à ce qu'ils puissent faire en sorte qu'ils accompagnent également eux-mêmes leurs enfants, les enfants qu'ils ont en charge. Non seulement les enfants, mais également les adolescents et puis les jeunes adultes. Mmh.
Et du coup, Evelyne, c'était le sens de votre témoignage ?
Ben, écoutez, le métier d'enseignant était vraiment un métier formidable. Hein, et puis
formidable et compliqué, c'est un peu le sens c'est un peu le sens de tout ce qu'on entend depuis tout à l'heure. Evelyne, pardon de vous presser, il est juste 19h56 en anglais, effectivement, résumé comme ça, formidable.
Enfin, voilà, c'est un métier formidable, c'est un métier de relation, c'est un métier de savoir, enfin c'est un luxe. On est dans une salle de classe, on est dans un échange d'idées, on regarde pas l'individu, j'ai envie de dire, en fonction de sa couleur de peau, de sa maladie, de son sexe, de quoi que ce soit, on s'adresse à des intelligences et à des intelligences qui progressent. Donc ça, c'est formidable. Maintenant, on est aussi un chef d'orchestre, on a 35. Moi, souvent, je me compare à ça. Et c'est un métier à la fois qui est un métier intellectuel et qui est physiquement épuisant. Et, et ça ne se dit pas, mais ça se vit en revanche.
Et qui s'apprend tout au long de la carrière. C'est un métier où on doit se remettre en question en permanence. C'est pour ça qu'il faut une formation continue de qualité pour les enseignants, pour les aider à renouveler leur méthode pédagogique
Et c'est intéressant le terme épuisé que vous employez, parce qu'il y a beaucoup de messages en ce sens-là. Très sincèrement, je comprends complètement les jeunes étudiants. J'aime mon métier, j'essaie de le faire le mieux possible pour mes élèves, mais ce métier est de plus en plus épuisant, très prenant. Je travaille les week-ends pendant mes vacances, au cours desquelles d'ailleurs, souvent du coup, je suis malade, nos conditions se dégradent. Alors, témoignage juste rapidement. Je serai enseignante en lettres jusqu'au 31 août et après je deviendrai personnel de direction. Même si j'ai adoré mon métier, il m'épuise au quotidien, les cours, les préparations de cours, etc., etc.
Non mais c'est un métier épuisant, mais en même temps, il ne faut pas oublier que on n'est pas forcément enseignant à vie. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent d'autres horizons, de l'entreprise, qui d'ailleurs sont un petit peu ahuris par notre fonctionnement, mais on en sort aussi. Et je dirais que quand on est professeur, dès lors qu'on est un petit peu ouvert, on peut faire beaucoup d'autres choses en même temps. Alors, effectivement, ça peut ajouter à la fatigue, mais ça ajoute également au dynamisme intellectuel.
Oui, je crois qu'il faudrait mieux traiter ceux qui font des reconversions aussi, parce qu'ils démarrent au point zéro et n'ont aucun avantage à rentrer dans le système. Donc, c'est vraiment une vocation et un choix pour cette catégorie de la population.
Et c'est vrai, c'est intéressant ce que vous avez dit sur le on n'est pas forcément prof à vie, mais ça aussi, ça fait partie des évolutions de la société. On ne fait plus le même métier à vie. Donc, pourquoi est-ce que les enseignants échapperaient à cette logique, finalement?
Oui, mais encore une fois, c'est pas une sanction d'être enseignant. Hein. C'est pas une condamnation.
C'est pas une sanction,
ça n'est un sacerdoce.
Voilà. C'est pour ça qu'il faut proposer des reconversions aussi.
Et c'est pas une punition, même quand les profs sont parfois sévères. Tiens, je voudrais vous laisser avec ce message sur franceinter.fr. J'ai étudié l'anglais, je suis devenue traductrice. Je voudrais donc rendre hommage à mon prof d'anglais de 4e et de 3e qui s'appelait Monsieur Jiménez et qui m'a fait adorer cette langue. Il m'a notamment appris le principe fondamental de la traduction. Ne cherchez pas à traduire les mots, mais demandez-vous comment vous le diriez en français. S'il entend ce message, qu'il essaie de me trouver sur Internet, car j'aimerais beaucoup avoir de ses nouvelles, mais je n'ai pas réussi à le localiser. Monsieur Jiménez, si vous êtes prof d'anglais et que vous vous souvenez de cet élève de 4e et de 3e que vous avez rendu heureuse, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, on vous donnera son adresse email. Merci à tous, merci pour tous ces appels et portez-vous bien.